Abdelkader.
Yasmine Abdelfadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdelfadel.
Heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de revenir sur ce dossier présenté au Journal de Montréal. Imaginez des rats à l'hôpital Sainte-Cabrini, une infestation de rats dans un hôpital. Oui, je niaise pas. Ce que je dis est vrai. Dans le Journal de Montréal, on peut apprendre que les exterminateurs ont dû intervenir plus de 40 fois en un an seulement pour des problèmes de vermine. Puis c'est à cause de travaux d'excavation que finalement plusieurs rats ont pu s'introduire à l'hôpital Sainte-Cabrini. Il y en a dans la cuisine, il y en a dans la cafétéria, tu sais, tous des endroits évidemment qu'on veut voir des rats, pas vraiment. Les employés puis des exterminateurs ont vu au moins 11 reprises en 2023 des rats, particulièrement dans la cuisine puis dans la cafétéria. C'est absolument dégueulasse. C'est absolument dégueulasse qu'un hôpital puisse être finalement un nid à rats. Là, on dit que selon le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, ce sont des travaux d'excavation d'un chantier qui vise à moderniser l'hôpital qui ont mené les rats à la cuisine. Imaginez des rats à la cuisine d'un hôpital. Je pense que le monde va devoir apporter leur lunch avant d'aller à Sainte-Cabrini. Qui peut faire confiance à la cuisine de l'hôpital Sainte-Cabrini lorsqu'on sait que les exterminateurs sont intervenus plus de 40 fois en un an? On a un sérieux problème de vermine. Ça, on parle de rats pour Sainte-Cabrini. Il y a d'autres hôpitaux qui sont pris avec des problèmes de mouches l'été dans les salles d'opération. Des mouches dans des salles d'opération. Honnêtement, plus besoin d'aller aux zoos de Granby ni au parc Safari. Faites un petit tour dans un hôpital de Montréal et ça va vous coûter moins cher. Puis la visite peut durer plus longtemps. Bienvenue à Cube, bienvenue à votre nouvel épisode.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdelfadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre, Lavoie Abdelfadel.
Luc, il y a Gabriel Attal, premier ministre de la République française, qui a fait un discours, ma foi, un bon discours hier avec certains passages qui ont fait sourciller plus d'un. C'est lui-même qui a mis sur la table la question de la laïcité.
Oui, vraiment, j'ai été très surpris. C'est vrai que Gabriel Attal, qui est tout jeune, qui a 34 ans, on en sait peu sur lui, mais il a été secrétaire à la jeunesse. Ministre de l'Éducation. Et il s'est fait le champion de la laïcité. Maintenant, un des problèmes qu'il y a avec ça, c'est que quand on parle de laïcité en France, on ne parle pas de la même chose qu'ici.
Non.
Notre histoire n'est pas la même. Le vrai débat sur la laïcité française a eu lieu en 1905. C'est un très célèbre débat et que ça visait l'Église catholique. C'est que l'Église catholique était subventionnée par l'État jusqu'aux oreilles, puis pas les autres. Mais là, nous autres, on est ailleurs. Là. On a sorti du catholicisme. Puis là, on a décidé qu'on va, s'occuper de nos... comment pourrait-on, nos religieux, nos je ne sais pas quoi penser, mais... Alors, donc, tu as raison, tout le monde s'attendait à une autre variation sur le thème de non-ingérence, non-indifférence.
Ouais.
D'ailleurs, il a balancé ça assez rapidement. Oui, c'est une formule qui me va, mais tout à coup, quand il est arrivé dans le cœur du discours, écoute, il a dit, et je le cite, il a fait un puissant plaidoyer pour la laïcité, et là, j'ouvre les guillemets, « une condition de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. » Et il s'en est pris à ceux qui voudraient faire croire qu'elle est une forme de discrimination.
Mais est-ce que c'est son rôle de venir dans un pays s'en prendre à ceux qui disent que c'est une discrimination?
Je pense que il a beaucoup agi en fonction de questions internes à la France.
Oui.
Le parti, parce qu'il n'y a pas... les macronistes, parce qu'ils n'ont pas vraiment de parti, la République en marche, puis bon, sont derrière Marine Le Pen oui. et le ralliement national. Et lui, Gabriel Attal, quand il était à l'éducation, il n'a pas été de main morte. On a banni ci, puis on a banni ça.
Puis il est abaya, puis il est
tout, tout. Alors, lui, j'ai l'impression que ce discours-là, c'est pas pour rapprocher le Québec de la France. C'est pour des raisons internes. Il veut être sûr que tout le monde en France, et quand tu vas à l'étranger, c'est une sorte de mégaphone de la diplomatie. Il veut que les Français sachent qu'ils pensent comme eux. Et il dit, dire aux Québécois, vous n'êtes pas seul à défendre ce modèle, à porter cette conviction, c'est important pour la France, car on y tient, et c'est important pour les Québécois, parce que ça donne aussi de la force pour défendre ses valeurs. Dans son discours d'hier, parce que ce que je cite, il y en a des morceaux qui viennent de la conférence oui. de presse de ce matin, dans son discours d'hier, ce qui m'a encore plus étonné, c'est vers la toute fin du discours, il a soulevé la question de l'identité, de l'identitaire comme pensée politique.
Que la France demeure la France.
Oui, voilà. Alors, on sait ce que ça veut dire. Bon, maintenant, il faut reconnaître aux Français le talent de manier
le
verbe comme personne au monde. C'était magnifique comme texte.
Exceptionnel.
Et lui, évidemment, il a été amené à ce poste-là par Macron. Parce que Macron veut s'adresser à la jeunesse, parce que la jeunesse n'a pas du tout les mêmes pensées que ceux qui ont vécu la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui, bon, c'est la nouvelle génération. Alors, je voulais le faire, j'ai oublié de le faire, mais le mot jeunesse.
Ah, il est venu 20 fois.
20 fois, est-ce que quelqu'un l'a calculé?
20 fois qu'il était calculé.
Et dans sa conférence de presse de ce matin, encore là-dessus, beaucoup. Mais également sur la laïcité. Alors, on lui a demandé si c'était de l'ingérence dans les politiques intérieures du Canada, parce qu'on sait que M. Trudeau est contre, M. Legault est pour.
Ben oui.
Il s'est bien défendu en disant « J'accepte qu'il y a des débats ailleurs. Je leur fais part de notre expérience à nous en France. Donc, c'est pas de l'ingérence. » Et là, on lui a demandé en conférence de presse « Mais quand vous avez rencontré M. Trudeau avant-hier, je crois, avez-vous parlé de laïcité? » Non. Non. Alors, on est donc devant un fait accompli qui est que M. Legault et son gouvernement viennent de recevoir un appui assez impressionnant de la part de c'est quand même la France. La France, c'est 70 millions d'habitants. Là, c'est une des puissances européennes. C'est un des moteurs de l'Union européenne avec l'Allemagne. Donc, la France est un pays qui est fantastique, que j'adore de tout mon cœur, mais d'un autre côté, qui est un peu malade présentement.
Est-ce que le modèle français est un modèle à suivre pour le Québec?
Ben, c'est parce que c'est la réalité qui n'est pas la même. Si tu appliques à une réalité différente, une recette, c'est comme si je vais te soigner la rougeole en faisant de la chimiothérapie. Tu sais, je comprends pas quel est où est-ce que ça se rejoint. Le principe de laïcité tel que défendu en France, c'était qu'on voulait mettre fin à ce qui existait depuis Charlemagne, à savoir que la religion de l'État, c'était le catholicisme.
Il n'y a pas de religion d'État.
Il n'y a pas de religion d'État, mais ça avait des retombées concrètes. Je veux dire, les églises catholiques, les prêtres, tout ça était subventionné au maximum par l'État. Et même aujourd'hui, quand ils font renaître le concept de laïcité, ils n'en parlent plus de ça, parce que les églises françaises sont toujours avantagées par rapport aux mosquées, par rapport aux synagogues, par rapport aux...
Oui, mais ça, c'est patrimonial.
C'est patrimonial.
N'oublie pas, là.
Alors, voilà, son passage, on va en parler longtemps, là,
Mais moi, ça ne m'a pas dérangé, sa sortie sur la laïcité. Parce que là où j'ai sourcillé, c'est lorsqu'il a interpellé ceux qui ne partageaient pas la définition de la laïcité. Ouais, c'est pas à lui de commencer à leur dire « vous vous trompez » ou « vous vous trompez pas ».
Oui, parce que les situations ne sont pas comparables, mais pas du tout comparables.
Puis le Québec était laïque.
En France, il y a 7-8 millions de musulmans qui vivent généralement dans des
banlieues
qui se mêlent pas au reste de la population, On dira, ben, ils ont juste à se mêler de là. Non, 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 non. Il existe un vieux fond de racisme en France.
On les a pas, qui est là.
Qui s'est manifesté par l'antisémitisme avec le procès de Dreyfus.
Dreyfus.
Donc, c'est tout ça là, qui est en train de bouger. Et il y a présentement une campagne électorale pour le Parlement européen. Et la réalité, c'est que ce Parlement européen, élu au suffrage universel, n'a jamais réussi à gagner ni la légitimité ni le pouvoir de faire quoi que ce soit. Alors, ce que les Français et d'autres Européens font, c'est quand ils veulent garder un politicien en réserve de la République parce qu'ils pensent qu'un jour, il va pouvoir... C'est comme l'équivalent de la Ligue américaine de hockey. Tu sais. Quand tu as un prospect, tu penses qu'il peut aller plus loin, tu l'envoies là pendant un certain temps. Alors, le Parlement européen, c'est une façon pour les Marine Le Pen de ce monde, qui est membre du Parlement européen, ouais, de gagner leur vie, reçoivent un salaire, une sorte de subvention pour des employés, de la recherche, ceci, cela, cela, des billets d'avion. Alors, ils veulent, Macron et Attal, ils aimeraient bien gagner l'élection européenne. Je pense pas qu'ils vont gagner, mais ils veulent surtout pas que le ralliement national, autrefois le Front national de Marine Le Pen, prenne une avance de 20 points, là, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver, étant donné le faible niveau de participation, tu sais pas qu'est-ce que ça peut donner. Combien il va y avoir, quel pourcentage des Européens vont aller voter aux élections européennes. C'est à peine si on en parle. C'est à peine si on en parle, parce que, comme je le disais, c'est...
comme les élections scolaires chez nous.
Oui, c'est exactement le même phénomène. Je veux dire, le Parlement européen, il n'y en a pas de pouvoir. Le pouvoir est au niveau de l'exécutif, puis l'exécutif est mis en place par les chefs d'État de l'Union européenne. Alors, c'est comme une perte de temps, tout ça. Mais revenons à Gabriel Attal. Beau garçon... très éloquent, qui se présente très bien, magnifique sourire. Il est très attirant, quoi.
Bien sûr. Très élégant, très digne.
Excusez-moi.
Mais j'ai hâte de voir, on dit que cette visite-là n'a pas eu beaucoup d'écho en France.
Très peu, c'est ce que je faisais avant qu'on arrive en Londres, je vais regarder le Figaro et le Monde.
Non,
j'ai
à peine couvert.
J'ai pas fouillé jusque dans les dernières pages de l'affaire, là, mais j'ai pas vu de manchette. Peut-être qu'il va y en avoir demain à cause de cette conférence de presse et du discours, on va voir demain.
Disons que la couverture médiatique est un petit peu déséquilibrée, parce qu'ici, c'est juste de ça dont on parle. Luc Lavoie, passe un excellent week-end.
Bon week-end, au revoir.
Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
On revient sur cette visite du premier ministre Gabriel Attal au Québec, mais aussi à Ottawa, au Canada. Et on en parle avec Lynn Beauchamp, ex-vice-première ministre du Québec, qui a été aussi déléguée générale du Québec à Paris en mai 2016. Mais surtout, je tiens à le dire, qui a été ma première boss en politique. C'était celle qui m'a donné ma première job en politique, c'est Lynn Beauchamp. Bonjour, Madame Beauchamp. Très contente de vous retrouver. Oh.
Mais c'est moi qui est fière, là, Yasmine. Donc, voilà. Un beau souvenir. Très beau souvenir.
Un très beau souvenir. Aujourd'hui, parlons de Gabriel Attal et de cette visite qui est très... finalement, on la couvre beaucoup ici au Québec. Pas tant en France. Elle n'a pas, disons, la même importance. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un dirigeant français qui vient chez nous, on met les attentes tellement élevées comme si... on attendait une reconnaissance, on attendait une phrase. Est-ce que le général de Gaulle nous a si marqué que ça, qu'on attend que quelqu'un marche dans ses traces?
La réponse, c'est oui. Même si Gabriel Attal, le nouveau premier ministre français, a lui-même fait remarquer qu'il n'était pas né en 1967. Mais la réponse est oui. Puis l'autre raison pourquoi c'est si important aux yeux de plusieurs politiciens québécois et diplomates québécois, c'est que le Québec a une relation diplomatique assez unique avec la France. La France lui a donné un statut unique, particulier, une relation directe. En fait, c'est comme si sur place, là-bas en France, diplomatiquement, c'est comme si le Québec était un pays indépendant. On a nos propres liens diplomatiques. Ça ne passe jamais par le gouvernement fédéral canadien. Et pour nous, donc, c'est une stature diplomatique importante. C'est accompagné, ça, dans la foulée, par le siège que nous détenons autour de la table à l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, nous sommes un État membre aux côtés de d'autres pays. Et tout ça fait en sorte que, oui, la relation diplomatique avec la France, elle est vraiment codée et elle devient très importante. Mais vous avez raison de souligner quand même que ça change, ne serait-ce que parce que depuis la Révolution tranquille et depuis les années 60, depuis De Gaulle, tous nos liens politiques étaient avec deux grands partis, le Parti républicain et le Parti socialiste. Et avec la venue du président Macron, tout a changé. Un nouveau parti. Ah oui, les trois quarts de l'Assemblée nationale française qui était composée de députés qui n'avaient jamais été des élus avant. Je vous dirais qu'on est devant quand même une nouvelle feuille de route en termes de liens entre, notamment entre la France et le Québec. Et ça rend ça intéressant, mais ça rend ça toujours aussi important aux yeux des Québécois, enfin des politiciens, des diplomates québécois.
Il y a des enjeux qui sont importants qui nous lient à la France, notamment la question du CETA, cet accord de libre-échange Canada-Union européenne qui récemment a été bloqué au Sénat français. Bon, ça ne fait pas en sorte qu'on ne peut plus finalement faire vivre cet accord de libre-échange. Toujours est-il qu'il y a un problème politique et symbolique qui est important. J'ai l'impression qu'on a moins parlé du CETA que l'on a parlé de laïcité. Pourquoi est-ce qu'on s'en fâche souvent dans des symboles qui finalement n'ont pas le même contexte plutôt que de problèmes qui sont réels?
Oui, vous avez raison. Moi, ça m'a beaucoup frappée. Je suis allée lire le communiqué conjoint entre le premier ministre Trudeau et le premier ministre Attal. Long communiqué qui fait une très grande place aux enjeux environnementaux, la lutte au changement climatique. Monsieur Trudeau a gagné le fait que la France se joint à une grande alliance qui veut défendre le modèle du marché du carbone à travers le monde. Bon, on voit tous ces enjeux-là politiques, mais à mon grand étonnement, aucune phrase sur l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. On aurait pu au moins dire que nous notons que nos échanges commerciaux augmentent, sont en augmentation entre la France et le Canada depuis cet accord. Donc, on s'aperçoit en fait surtout que ça, c'est un enjeu extrêmement délicat pour M. Attal. Au Sénat, là, cet accord-là a été battu par la droite, par la gauche, par les communistes. En fait, dans un contexte où on s'en va vers des élections européennes puis qu'on veut exprimer son mécontentement vis-à-vis comment fonctionne l'Europe, cet accord-là est devenu un peu un symbole. Puis en plus, on a peur d'un autre accord de libre-échange qui se négocie avec les pays de l'Amérique du Sud. Les agriculteurs français ont très peur du bœuf argentin et brésilien. Tout ça mis ensemble a fait en sorte que c'est l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui a été battu au Sénat. Mais on s'aperçoit que le gouvernement Macron a quand même une grande côte à remonter pour défendre cet accord-là. Il doit revenir devant l'Assemblée nationale française. Écoutez, un jour, là, tout va être correct, là. On s'amusera pas à faire battre cet accord-là à l'Assemblée nationale française parce que les faits, les chiffres sont là. La preuve est que c'est pour vrai bénéfique pour les deux pays, puis aussi pour le Québec.
Mais surtout pour la France. Parce qu'il faut le dire, au Québec, la balance commerciale avec la France n'est pas à notre avantage. On a augmenté les exportations seulement de 10% depuis la signature de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne. Et c'est la France qui a doublé ses exportations. C'est vers la France, finalement, qui tire profit. Alors, c'est un peu particulier qu'on ne mise pas sur ces chiffres-là pour faire avancer le dossier puis créer une pression sur M. Attal.
Oui, mais ça, vous avez raison encore une fois. Et ça, écoutez, c'est tellement politique le dossier en France que Mme Le Pen, lors de la dernière élection présidentielle, on est en plein débat entre les deux candidats, Mme Le Pen et M. Macron, et Mme Le Pen a pris le temps de parler de l'accord de libre-échange Canada-Union européenne pour décrire ça comme étant un épouvantail, là. C'est très, très, très politique en France. Mais je veux juste revenir sur la question des échanges commerciaux entre la France et le Québec. Là, on a devant nous une occasion en or. Il y a le ministre Roland Lescure, qui a été nommé, c'est un Québécois et c'est quelqu'un qui a la double citoyenneté. C'est un ancien vice-président de notre caisse de dépôt et de placement. Et là, est un ministre d'État. Il est sous le ministre des Finances et il a l'économie et l'industrie, si vous voulez, et l'énergie. Ça vous rappelle quelqu'un?
Pierre Fitzgibbon.
Il est vraiment le vis-à-vis de Pierre Fitzgibbon. Ils se connaissent. Monsieur Lescure est un ami aussi personnel de Christian Dubé. Vraiment, là, la table, elle est mise pour qu'on ait droit à une vraie stratégie d'augmentation des échanges commerciaux entre la France et le Québec. Puis aussi, il faut appeler un chat un chat. J'espère que Monsieur Legault a rappelé à Monsieur Attal que, alors que la France, par exemple, a fait de belles acquisitions au Québec, on pense aux deux branches de bombardiers, là, la branche de l'avion C-Series acquis par Airbus, les trains acquis par Alstom. Pendant ce temps-là, il y a quelque temps à peine, la France, politiquement, a refusé que Alain Bouchard,
Couche-Tard
Couche-Tard,
achète
acquiert
Carrefour.
La grande chaîne d'alimentation Carrefour. T'sais, à un moment donné, là, il faut que ça cesse, là, le protectionnisme français, et il faut qu'on appelle un chat, puis il faut qu'on ait une vraie stratégie de libre-échange entre la France et le Québec. Vous savez, ce sont des amis, ce sont des alliés, on partage des valeurs, mais à un moment donné, il faut soulever les enjeux qui sont plus délicats et il faut soulever les enjeux qui font pas notre affaire parce que c'est autant de cartes qu'on peut jouer ensuite pour négocier autre chose. Et j'espère que ces sujets-là ont été soulevés lors de la rencontre entre Monsieur Legault et Monsieur Attal. C'est très évident que ça apparaît pas dans un communiqué
Non.
officiel, là. Tout ce qui n'apparaît pas dans un communiqué officiel est aussi important que ce qui y apparaît.
On apprenait aussi hier qu'Emmanuel Macron va visiter le Canada durant l'été, mais ne va pas s'arrêter au Québec. Et c'est là où je commence, peut-être que je suis complotiste, là, mais je me demande si la visite de Gabriel Attal au Québec n'est pas pour nous calmer avant, pour dire c'est pas vrai qu'on vous ignore, c'est pas vrai qu'on vous donne pas. Pourquoi mais Emmanuel Macron n'arrête pas au Québec?
Mais premièrement, Yasmine, non, la visite de Gabriel Attal, elle est purement politique et pour sa scène intérieure. OK, il est un ami du Canada et du Québec, et particulièrement du Québec, mais néanmoins, là, pourquoi il est ici en ce moment, lui, son indicateur de succès de sa mission, là, c'est pas encore arrivé, c'est ce soir, quand il rencontre ses ressortissants français, donc cette diaspora montréalaise, c'est la plus importante à travers le monde. Pourquoi c'est si important pour Gabriel Attal? C'est qu'il y a des élections européennes au début du mois de juin. Le vote à Montréal va se faire le 8 juin. Les Français ont jusqu'au 3 mai pour s'inscrire sur la liste électorale. Et le parti de M. Macron, de M. Attal, ils sont largement derrière l'extrême droite de Madame Le Pen pour ses élections au Parlement européen. Donc, lui, là, quand il retourne en France, sa vraie mesure de son succès, c'est
C'est
combien
ça.
de votes il est allé engranger à Montréal pour les élections européennes. Donc, c'est vraiment ça le contexte de la visite de M. Attal. Et tant mieux si ça a permis de tenir la rencontre alternée des premiers ministres. Bien sûr, c'est quand même des gains diplomatiques pour le Québec. Maintenant, le fait que M. Macron, en fait, je crois que le Québec a encore le temps de récupérer ce qui peut être en ce moment vu comme une espèce d'impair diplomatique. Quand même, M. Macron est tout près de chez nous
Ah
et
oui.
nous avons cette relation directe et privilégiée. Je dis qu'il sera tout près parce on sait qu'il se rendra en Acadie. Et je pense qu'il est encore temps, d'autant plus qu'il faut rappeler au président Macron qu'en 2018, alors qu'il avait pris l'engagement public aux côtés de Philippe Couillard de venir s'adresser à l'Assemblée nationale lors de sa venue dans le cadre du G7 au Canada, vraiment à la toute dernière minute, il a retiré cet élément de son agenda. Vous savez, en diplomatie, là, on passe pas l'éponge si facilement que ça. En fait, lorsqu'on vit des moments plus difficiles, on doit les utiliser pour ensuite faire d'autres gains, faire un peu du judo avec ça. Et moi, je crois
Oui.
qu'il faut rappeler à M. Macron que là, ça sera vraiment deux signaux plutôt négatifs qu'il enverrait vers le Québec.
En
Puis on a plein de
espérant que.
sujets à discuter avec lui, y compris l'accord de libre-échange, qui va demeurer un sujet encore à l'été, hein, ça sera pas
Ouais.
fini. Et il a besoin qu'on lui envoie plein de signaux positifs pour défendre cet accord vis-à-vis les députés français.
Madame Beauchamp, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va probablement demander votre éclairage une autre fois parce que ce n'est pas une histoire qui est terminée.
Merci bien, merci.
Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
Dans les studios de Cube. Bonjour Yasmine.
Bonjour Marianne.
Parlons évidemment de la visite du premier ministre français Gabriel Attal. Il est attendu à Montréal cet après-midi. Était à Québec depuis hier. Qu'est-ce qui te frappe jusqu'à présent?
Ben, en fait, je suis surprise des sujets qui dominent l'actualité. On parle beaucoup de la position du Québec au sein du Canada, puis de la position traditionnelle française de la non-ingérence, non-indifférence. On parle énormément de laïcité, mais on ne parle pas des sujets qui sont, eux, très chauds, très urgents. On parle pas du CETA, de cet accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui a été bloqué au Sénat français par des partis notamment de l'extrême droite et des communistes. On parle pas des élections européennes qui pourraient mener le parti de Madame Le Pen, à Marine Le Pen au Parlement européen et qui va perpétuer finalement ce narratif anti-accord de libre-échange avec le Canada. On ne parle pas des échanges en matière d'éducation notamment. On parle pas de la situation à Haïti. Je suis un peu surprise des sujets qui dominent cette visite et je suis aussi surprise du fait qu'au Québec, on ne soit pas si déçu que ça. En fait, à tout le moins, on ne l'est pas exprimé, qu'Emmanuel Macron, qui va venir cet été au Canada, va aller à Ottawa, va aller en Acadie, mais n'arrêtera pas au Québec. Alors, cette fraternité que l'on a avec la France, nous, on l'exprime beaucoup. Je me serais attendue à ce que la France aussi l'exprime avec un arrêt de M. Macron au Québec l'été prochain.
On a appris par ailleurs que la vérificatrice générale va enquêter sur le déploiement de Saclic et ses ratés. Les gens d'ailleurs qui sont invités à raconter sur le site comme tel, on peut s'y rendre, de la vérificatrice générale, leur histoire, s'ils ont par exemple passé des heures en file pour un renouvellement de permis. Est-ce que c'est un exercice nécessaire selon toi?
Quelle excellente nouvelle aujourd'hui que la vérificatrice générale saute sur ce dossier-là puis va l'analyser et nous donner l'heure juste, parce que malheureusement, cet cafouillage a été un fiasco et nous a laissé un goût amer sur tout ce qui est transformation numérique de l'État, de certains organes de l'État. Et on va certainement apprendre de ces recommandations, de ces analyses, pour ne pas que les mêmes erreurs soient commises, parce que la numérisation, la transformation numérique de nos organes étatiques, ça va continuer. On peut pas arrêter ça. On pourra pas continuer à utiliser le fax indéfiniment et de manière sans jamais l'enlever. Il va falloir apprendre nos erreurs, savoir où est-ce qu'on l'a échappé, savoir surtout qui l'a échappé, combien on aurait dû économiser si on avait bien géré ce dossier-là. Ces recommandations vont être les bienvenues parce qu'on n'a pas l'impression que, par exemple, un Éric Kerr comprenne finalement que ce fiasco-là a fait beaucoup de mal dans la confiance que tiennent les Québécois envers la capacité du gouvernement à se transformer.
Tu dis qu'il a échappé, mais est-ce que tu as vraiment l'impression qu'il y a des gens qui seront redevables, seront montrés du doigt, ou on va constater qu'il y a eu des erreurs à droite et à gauche, mais pas clairement définies qui a fait en sorte que ces erreurs-là ont été commises?
Je m'attends pas nécessairement à ce que la vérificatrice générale pointe des noms ou dise des noms, les identifie. Mais par contre, si elle nous parle de la planification de la transformation, du soutien que le ministère de la cybersécurité et du numérique aurait dû apporter, des questions qu'il aurait fallu que l'exécutif ou que le gouvernement pose à la SAAQ lorsqu'il est venu le temps de fermer pendant 3 semaines les bureaux d'immatriculation de la SAAQ, qui a été informé des décisions, quelles ont été les informations qui ont été présentées, étaient-elles à jour ou pas, étaient-elles bien planifiées ou pas. Et c'est ce mécanisme-là qui va nous permettre de savoir où est-ce que le bât blesse et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça puisse s'améliorer.
Hâte de lire les conclusions quand même. Merci beaucoup, Yasmine. Bonne fin de semaine.
Au revoir, Marie.
Pour une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel-Fadel.
Le Centre d'amitié autochtone Montréal-Autochtone a procédé aujourd'hui à l'ouverture de la première clinique de santé familiale culturellement sécurisante de la région de Montréal. Des soins de santé de première ligne répondant aux besoins, à l'identité et aux particularités des Autochtones, c'est ça qui va être offert. Un programme de bien-être qu'on dit holistique, qui inclut des soins de guérison traditionnels, intégrés, là, et on parle de flexibilité, d'écosystémique, disons un contexte favorable à des soins qui puissent être sécurisants pour les enfants, les familles, les adultes et les aînés autochtones. On en parle avec Philippe Meilleur, directeur général de Montréal Autochtone. Bonjour, Monsieur Meilleur.
Oui, oui.
Pour quelles raisons sentez-vous le besoin d'ouvrir une clinique particulière pour les Autochtones?
Bien, comme on l'a communiqué dans notre conférence de presse, on offre toutes sortes de services chez Montréal Autochtone. On offre des services allant de revitaliser nos cultures, faire des enseignements à toutes sortes de niveaux sur ce plan-là, des services distincts à des enfants pour leur parcours éducatif, de l'intervention psychosociale auprès des familles. Et pour tous ceux qui nous connaissent et qui savent c'est quoi l'historique avec les Autochtones et le système de santé, qui ont suivi, par exemple, la commission vient, c'est assez documenté que les Autochtones ont plusieurs raisons d'être méfiants envers le système de santé. Toutes sortes de traumatismes intergénérationnels se sont passés, soit par l'enlèvement des enfants, les écoles pensionnats qui étaient faites ensuite, en coordination avec les réseaux des services sociaux. Plus récemment, il n'y a pas une personne autochtone au Québec qui n'a pas vu le décès de Joyce Echaquan live aussi. Et toutes sortes de personnes ont vécu toutes sortes d'injustices à différents niveaux. Donc, nos membres ne sont pas différents de d'autres Autochtones. Ils hésitent d'aller consulter, ils hésitent d'entrer dans les services de la santé parce qu'ils sont méfiants de ce qu'ils vont vivre comme expérience. Donc, notre approche est assez simple. On a invité le système de santé dans nos bureaux, là où on est en train de desservir nos membres, mais aussi ça leur appartient. Moi, je suis Mohawk, notre conseil d'administration est autochtone, et notre membership, c'est ceux qui élisent notre conseil d'administration et qui assurent que les services qu'ils vont recevoir, c'est à leur couleur. Donc, ils ont beaucoup plus une voix entre nos quatre murs pour orienter les services de santé qu'ils veulent avoir. Et évidemment, ils sont déjà à l'aise, ils sont chez eux.
Mais est-ce que ça peut être ouvert à l'ensemble de la population ou est-ce que il y a finalement une autodéclaration pour s'autodéclarer faisant partie des communautés autochtones pour pouvoir accéder à ce service? Parce que je pose la question parce que de plus en plus on se dit là si est-ce qu'on abandonne la lutte pour faire de notre système de santé un système de santé qui est inclusif en créant des endroits sécurisants pour les différentes communautés ou est-ce qu'on est capable de faire les deux en même temps?
Je pense qu'en fait, je reformulerais, c'est en faisant des cliniques comme les nôtres qui sont axées sur la proximité des individus, de leurs besoins particuliers, de leurs particularités culturelles, que le réseau de la santé va atteindre sa mission populationnelle. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé qui était présent lors de notre conférence de presse est absolument d'accord. Il a carrément dit, ce qu'ils font ici, c'est ce que tout le réseau de la santé devrait faire.
Ben oui.
Donc, je pense que c'est absolument la direction que le réseau de la santé doit prendre. Travailler plus intimement avec des organisations qui sont à proximité des gens, qui connaissent leurs besoins. La réalité, c'est que Montréal reçoit en fait la plus grosse population autochtone en milieu urbain. C'est vraiment une population bien plus grande que ma communauté de Ganesetaghe. On parle de 13 000 personnes. Il y a beaucoup de différentes nations, par contre. Donc, ce n'est pas juste un groupe. Et on est mêlé à une population de 2,3 millions. Donc, on est très, très, très petit dans un réseau de la santé qui est très vaste, mais avec des alliés comme nous qui travaillent directement auprès de la clientèle et avec des partenaires du réseau de la santé, quand il va y avoir des enjeux, on va être capable de dialoguer, on va pouvoir ajuster le tir, on va pouvoir améliorer le réseau directement et il va y avoir une expertise qui va se partager au travers du réseau des centres d'amitié, là où il y a d'autres partenaires du réseau de la santé qui vont travailler avec nous.
On parle de programmes de bien-être holistique qui incluent des soins de guérison traditionnels. Ça veut dire quoi?
Essentiellement, ça veut dire que quand une personne va venir faire, tu sais, je pense à moi par exemple, j'ai appris récemment que j'avais de la haute pression. C'est bien du stress être dirigeant d'une organisation, même soi-disant aussi petite que la nôtre. Et c'est très stressant, c'est difficile, il faut changer nos habitudes de vie, il faut s'engager dans une démarche de santé. On peut s'imaginer qu'il y a des gens qui ont des problématiques de santé beaucoup plus importantes que simplement de la haute pression. Et donc, rencontrer un gardien du savoir, un aîné, ils ont différents types de noms dépendamment de où ils sont dans leur parcours, ça va permettre à des gens de dialoguer, d'avoir une sorte d'expérience un peu thérapeutique, mais dans un cadre culturel où ils vont réapprendre certaines pratiques culturelles. Et ça va les ancrer dans leur identité. Et on sait qu'une personne qui a un fort ancrage culturel, ça renforce aussi leur résilience, ça renforce leur courage à faire face à certains défis. Donc, ça peut prendre forme de cette manière-là, ou dans d'autres cas, ça va être de faire des cérémonies, par exemple, pour des parents qui viennent juste d'avoir un enfant naissant, ils sont peut-être pas proches de leur communauté. Peut-être que leur communauté est à des centaines de milliers de kilomètres. Donc, ils vont pouvoir faire appel à un aîné pour toutes sortes de pratiques culturelles qu'on fait dans différents parcours de vie aussi.
Parce que ça, on le verrait pas dans un centre, un établissement de santé, disons, public régulier, dans un hôpital régulier. Est-ce que on est en train de, finalement, d'avoir un centre où on va mêler, intégrer des concepts plus ésotériques, plus mystiques, disons, plus spirituels, à de la science, disons qu'on est des fois un peu allergique à ça au Québec. Moi, j'ai rien contre, mais à écouter nos politiciens, là, des fois, on peut être bien allergique à faire rentrer du spirituel dans ce qui est supposé et censé être scientifique.
En effet, mais nous, notre santé, comment qu'on la conçoit, certaines personnes vont prendre la roue de la médecine, qui est un concept un peu contemporain, mais essentiellement, c'est que toutes les sphères de la vie sont importantes, d'après nous, pour la santé. C'est ce que nos aînés nous transmettent de génération en génération, et honnêtement, ça fait tout son sens. Ça veut pas dire, par contre, qu'on fait des pratiques qui sont religieuses ou qui sont en promotion d'une certaine vision de la spiritualité. On rend disponible, présentement, ces deux aînés Mohawk. Ce ne sont pas des gens qui connaissent toutes les pratiques spirituelles de toutes les nationalités, évidemment. Donc, ils vont parler de leur perspective Mohawk. Et pour certaines personnes, ça peut être assez aussi de se dire « OK, je trouve que ce savoir-là fait du sens pour moi, pour mieux comprendre un petit peu comment que moi, je m'ancre dans ma propre spiritualité. » Donc, c'est un élément parmi tant d'autres. Je pourrais vous dire qu'il y avait une famille tout récemment qui était avec un de nos gardiens. On voit que les enfants couraient un peu partout. Il a décidé d'apprendre, d'enseigner comment faire de la danse traditionnelle aux enfants. Ça a changé une dynamique qui était autour d'une discussion difficile au niveau de la santé mentale et de l'intervention. Donc, ça va prendre toutes sortes de formes, en fait, entrer en contact avec nos gardiens du savoir. Et dans certains cas, ils vont collaborer avec les médecins, les infirmières pour améliorer les trajectoires de santé, un peu comme je disais, en appuyant une personne dans ses démarches.
N'avez-vous pas peur que finalement les organisations de santé montréalaises, autres que la clinique que vous avez annoncée aujourd'hui, finalement vous utilisent comme le plan B facile, là? Tu sais, il y a une personne autochtone qui vient nous voir pour avoir des services plutôt que se forcer pour lui donner les services qu'elle mérite parce que c'est une citoyenne à part entière. Elle a le droit à toute la dignité. Oh, ben, regardez, il y a peut-être des services qui vous sont plus appropriés, qui vont mieux vous comprendre. Ah ouais, Montréal autochtone. Comment vous allez pouvoir garder cet équilibre-là pour ne pas diminuer l'obligation d'offrir des soins de qualité et dignes à la communauté autochtone dans tous les établissements du Québec?
Bien, première des choses, c'est important de savoir que certains centres d'amitié ont tenté de faire la même démarche que nous et dû à la difficulté de créer une collaboration concrète où on a vraiment un prêt de service, tout ça, ont dû tourner un peu plus dans un modèle plus privé, on dirait. Donc, embaucher nous-mêmes des infirmières, des choses comme ça. Donc, nous, on a continué, persisté malgré les grands retards de livraison de services, de se dire, non, la responsabilité au niveau de la santé, ça appartient au réseau. On veut pas commencer à superviser des médecins. On veut pas superviser des infirmières. Ça n'a pas de bon sens. Et il faut que nos patients qui rentrent par cette porte d'entrée aient accès à tous les autres spécialistes. Si on n'a pas un accès à un réseau de santé, ils vont être bloqués. Il va y avoir des limites de traitement. Donc, première des choses, avec ce modèle-là, on garde la responsabilité populationnelle entre les mains du gouvernement. Puis, évidemment, il va y avoir toutes sortes de réactions quand on en reçoit déjà. On a des spécialistes qui nous approchent avec des dossiers beaucoup trop gros pour notre capacité. C'est simplement de la première ligne qu'on fait, là. C'est à peu près l'équivalent de CLSC. Donc, on peut pas prendre en charge toutes sortes de profils. Heureusement, on a quand même une certaine équipe bâtie. On a une direction, coordination, secrétaire médical, navigatrice santé, en plus de nos collègues au niveau de la santé. Et donc, on va être capable de faire le triage de ces genres de réactions-là, corriger le tir. Et un peu comme j'ai dit dans la conférence, la sécurisation culturelle, les droits des Autochtones, nos réalités, tout ça, ça passe par du dialogue. Et si on n'a pas des milieux pour pouvoir engager la discussion, dire c'est quoi qui doit être amélioré, travailler ensemble pour l'améliorer, on ne croit pas qu'on va y arriver tout seul. Et on ne peut pas juste laisser aux hôpitaux, aux réseaux de la santé à créer ces initiatives-là, déconnectées de nos réalités. Il faut s'engager.
Philippe Meilleur, directeur général de Montréal Autochtone, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne chance avec cette nouvelle initiative.
No one go. Merci.
Au revoir.
Une main de fer dans un gant de velours. Yasmine Abdel-Fadel.
On retrouve Pierre Nantel. Bonjour, pour le débrief de la semaine.
Mais oui, le débrief, on est rendu loin, on n'a pas assez de temps pour ça. mais je sais que tu t'es montré un peu déçu de l'agenda des rencontres avec Gabriel Attal. Ben pas moi.
Non.
Non, mais en fait un peu. Je comprends ce que tu évoques au niveau des choses essentielles de l'économie en particulier. Mais par contre, faut se rappeler que les deux politiciens qui recevaient le premier ministre, les politiciens qui avaient beaucoup besoin d'oxygène. Et ils en ont reçu pas mal du côté du fédéral avec l'histoire de la taxe carbone, avec Boris Eltsin qui s'était juste...
Boris Eltsin.
Ben Lurette qui est dans une boîte. mais c'est ça, alors, avec Boris Johnson. Donc, pour M. Trudeau, ça a fait comme, ah mon Dieu, deux belles nouvelles dans la même journée. Puis honnêtement, c'est un grand soulagement. On sait tous le mouvement qui grenouille dans les provinces contre la taxe carbone. Mais du côté du Québec, bien évidemment, M. Legault avait lui aussi envie d'aller chercher du renfort puis de pouvoir se faire conforter par quelqu'un que les Québécois ne connaissent peut-être pas. Mais moi, en tout cas, je peux dire que je fais partie de cette clientèle qui espère une meilleure relation
Mais on est toujours dans spirituelle cette expérience-là. Mais pourquoi?
Ben moi, je pense qu'il n'y a pas de problème avec cette situation-là, dans la mesure où on est dans une situation tellement hybride. On est tout seul à parler français en Amérique du Nord. Alors, le mot reconnaissance est peut-être un peu esclave, un peu soumis, mais collaboration, travailler sur la francophonie, développer le soutien et le marché africain.
Les médias français parlent pas de la visite de Gabriel Attal?
Ben, honnêtement, ça me semble
être important juste pour nous, cette affaire-là.
Ben, la réalité, parce que du côté d'Ottawa, c'est sûr qu'on peut, du côté de l'accord économique, ça c'est un peu inquiétant, je suis d'accord avec toi. Mais du côté du Québec, on a besoin de savoir qu'on travaille ensemble sur le même truc. Et puis, je peux pas m'empêcher de, ce matin, il y a eu une espèce d'entente, un communiqué qui a été émis par le bureau du premier ministre, un peu hydrogéné, disons. Mais du côté de la France, quand même, c'est plus concret. Mathieu Lacombe et Mme Rachida Dati ont signé une entente pour finalement mettre un peu d'essence dans des projets qui avaient été lancés avec la France pour augmenter le mot que plusieurs personnes découvrent aujourd'hui, puis j'en suis très heureux, découvrabilité des contenus francophones sur Internet. Alors, essentiellement, c'est se battre contre les algorithmes naturels de ces différentes plateformes de streaming qui font que si, par exemple, tu as écouté un film d'action, OSS 117, l'action comique, espionnage, l'algorithme va surtout te référer des films d'action du même genre avec Jason Statham puis des produits américains plutôt que de dire vous avez un intérêt pour le contenu francophone, voici une alternative. Comme l'algorithme n'est pas fait comme ça, et c'est très problématique, et c'est la découvrabilité qui n'est pas au rendez-vous. La preuve, c'est le pourcentage vraiment microscopique de musique québécoise que les plateformes poussent. Et pourtant, Spotify est très au courant, la disque a fait beaucoup de lobby auprès de ces entreprises là Mais la mécanique est lourde. Et à cet effet-là, le contenu francophone est sous-exposé. Et c'est la grande différence. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément depuis plusieurs années. Parce que autrefois, quand on allait au club vidéo regarder des films, on disait « qu'est-ce qu'on loue ce soir? » On était exposé à du produit québécois. On marchait dans les allées. On voyait « Ah oui, à ton âge, on louait des VHS.
» À mon âge, oui, j'ai loué des VHS, j'ai loué des DVD, puis je suis passé à Netflix. Fait que j'ai comme, moi, vécu, là...
Mais, et même Netflix envoyait des DVD par la poste, c'était leur premier modèle d'affaires. Mais toujours est-il qu'on était exposé en allant chercher un film quelconque. Peut-être qu'on voulait voir un film d'un blockbuster américain, mais on voyait « Ah, il y a un film de telle réalisatrice, je l'aime bien. » Alors qu'aujourd'hui, c'est ça qui ne se produit plus. Alors, la découvrabilité est le terme du jour pour Rachida Dati et M. Lacombe, parce que ils veulent mettre un peu un petit soutien à la déclaration qu'on appelait la Convention de la diversité culturelle de l'UNESCO. Un projet vraiment qui était démarré au Québec, qui permettait à tous les pays signataires d'invoquer cette convention pour exclure des ententes de libre marché économique la dimension culturelle, pour pas laisser, par exemple, un pays très fort comme les États-Unis dumper son produit culturel tout partout, et donc laisser un peu la voie aux diversités culturelles. Et ce projet-là est vraiment amené d'ici. La disque, moi j'ai eu la chance de travailler longtemps en musique, la disque avec Robert Pilon avait développé ce projet-là, avait convaincu l'Assemblée nationale, convaincu Ottawa, déposé ce projet-là, et s'il y a une convention de la diversité culturelle à l'UNESCO à Paris, c'est beaucoup beaucoup grâce à la disque, à Robert Pilon, à la disque et au gouvernement québécois et canadien.
On s'attend beaucoup à ce que les gouvernements puissent convaincre les géants des médias à modifier leur algorithme pour qu'il y ait une découvrabilité régionale ou linguistique plutôt qu'une sur le genre de film, par exemple.
Tout à fait.
Mais nous, comme utilisateurs de ces plateformes-là, tu sais, si Netflix puis leur algorithme se rendent compte qu'au Québec, là, ils vont les voir Incendie. Ils sont partis sur Netflix regarder Incendie, puis bon, Cop, Bad Cop 1, puis bon, Cop, Bad Cop 2, puis Les Boys 1, 2.
Toi, t'espères que le marché va se faire naturellement?
Ben, de manière organique, plutôt que de l'imposer. C'est dire, il y a un marché et il faut le développer parce qu'on voit que les Québécois veulent le regarder, miser sur la demande.
On est quand même... Ce que tu exprimes existe. Et tu as parlé de régions, je vais y revenir, mais ça existe, les grandes plateformes constatent, par exemple, que tel ou tel film a été le plus grand succès pendant telle semaine ou tel mois. Ça existe. Mais ceci dit, on doit aller beaucoup plus loin que juste offrir le titre. On doit, par exemple, et c'est ce que la loi C-11 qui a été adoptée, C-18 s'occupait des nouvelles, de s'assurer qu'elles aient des fonds pour le journalisme. C-11, c'est d'imposer aux différentes plateformes internationales de financer,
des productions.
Rendre disponibles des productions, parce que ultimement, il faut pouvoir se battre à armes égales. Moi, j'aime beaucoup M'entends-tu, mais ça, je crois que c'est difficile de rencontrer Dead to Me en termes de production et de budget de production. Alors, mais par contre, il y a beaucoup à fouiller dans tout ça, et je pense que le Québec souffre un peu de pas avoir été consulté par Ottawa lorsque la loi C-11 a été faite. Et honnêtement, la CAQ n'en a qu'à s'en prendre à elle-même. Parce que, honnêtement, les ministres de la Culture, avant Mathieu Lacombe, ne s'y intéressaient pas du tout. Et on peut espérer aujourd'hui que l'activité, la solidarité avec la France va maintenir l'intérêt, surtout peut-être mettre un réveil matin sous l'oreiller des gens du CRTC, parce que ça fait longtemps. Là, que c'est, ça fait, moi, je te dis, depuis 2015, il y a eu la fameuse entente Netflix. Ça fait maintenant donc 9 ans qu'il n'y a rien qui a été fait et le problème a été nommé. Quand Mélanie Joly est arrivée avec l'entente Netflix, elle nommait le problème que la culture de chez nous n'était pas disponible dans les plateformes internationales. La musique était le canari dans la mine. On le savait depuis longtemps avec Napster et tout ça. Tu sais, moi, j'ai vécu une belle époque là, entre 1987, Libérer le trésor, Un trou dans les nuages de Michel Rivard, jusqu'à Isabelle Boulay tout un jour. Ça a été une très belle période de la musique enregistrée. Mais tout de suite, on a pu voir ce qui est arrivé avec Napster. Et par la suite, avec les autres services numériques, la valeur du droit d'auteur était diminuée tellement. Et surtout, l'achat d'un support physique n'existait plus.
On ne parle pas beaucoup, par contre, de certains milieux du domaine de la culture qui, eux, ça va bien. L'humour.
C'est vrai, tu as raison. Et ça va bien même sur scène.
Même sur scène,
toi, tu as tout à fait raison.
Et en Europe, là, nos humoristes québécois vont ailleurs.
Oui, c'est vrai. Mais malheureusement, je suis d'accord avec toi, mais l'ambassadeur ou l'ambassadrice de notre façon d'être, notre société québécoise, ce qu'on veut tant affirmer comme distinct et tout ça, c'est l'industrie culturelle enregistrée, la musique, la télévision, le cinéma, parce que c'est un agent... On nous a longtemps reproché que notre production culturelle, télévisuelle, cinématographique était trop blanche. Ben, les efforts ont été faits. Aujourd'hui, si on écoute la production à la télé, on voit à quel point il y a plein de gens qui arrivent de partout. Et beaucoup de ces gens qui arrivent d'ailleurs, qui ont fait « Hey, c'est vrai qu'il y a de la belle production, je vais aller étudier là-dedans, c'est le fun, il y a un avenir possible. » Je défie ces gens-là d'aller voir ce qui est possible dans un État comme le Michigan, qui a la même population, puis où il n'y a pas un chat du Michigan qui est porte-parole nationale pour une marque de voiture.
Non, ça,
on
c'est
nous
clair.
Parle avec notre imaginaire. C'est ça qu'on doit protéger. Alors, bonne chance en France, on leur envoie des euros.
Pierre Nantel, mes amis, merci
Salut.
Beaucoup.
Bonne fin de semaine.
C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche de Mise en onde. Je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube.